Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, on va lire un texte, s'il vous plaît, que vous connaissez. Alors, je voudrais y apporter un commentaire ce matin qui va être le sujet de notre culte, de notre prédication. Alors, il s'agit de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Ce sont les paroles de Jésus qui ont été consignées par l'apôtre ou l'évangéliste Luc. Et il est dit ceci: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Voilà pour cette référence qui va nous occuper ce matin. La fidélité. Vous avez certainement peut-être une idée de ce que c'est. C'est quelque chose d'important, hein ? La fidélité. Et par le détail, nous allons donner quelques explications. Alors, ça vient du latin fidelis. Fidelis est attaché à une autre notion, fides ou fide, qui veut dire foi. Parce que la fidélité, c'est la foi. Et vous remarquerez, vous êtes des familiers de l'Écriture, et vous savez qu'il y a 9 fruits de l'Esprit dans Galates. Et entre autres, il est question de fidélité. La fidélité, qui dans nos Bibles françaises se traduisent par tout simplement la foi, la fidélité. C'est important de le savoir parce que nous utilisons des mots, quelquefois nous n'en connaissons pas toujours parfaitement le sens. Parce que je crois que le mot fidélité, le mot amour et bien d'autres, c'est quelque chose, quoi qu'il en soit, qui tient une place très importante dans notre vocabulaire chrétien. Donc voilà, fidelis, fides. Donc, je l'ai dit, je le répète, les fruits de l'esprit. Un des 9 fruits de l'esprit. Et il touche en qualité notre caractère, c'est-à-dire notre identité, notre personnalité, notre tempérament, ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, notre âme, si vous voulez. Parce que l'âme, c'est un des 3 éléments de notre constitution, le corps, l'âme et l'esprit, qui nous donne la conscience de ce que nous sommes, la conscience de soi. Il y a cette identité physique, on le sait, et puis il y a cette identité de l'âme, et il y a aussi cette identité spirituelle, c'est-à-dire l'esprit. J'aimerais peut-être, pour encore poser les fondements de notre réflexion, vous citer quelques synonymes. Cela veut dire honnêteté. Je pense qu'il n'y a pas de doute, un chrétien, il est honnête, normalement. Loyauté. C'est-à-dire que nous allons faire le développement tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a un sens à tout ça. La constance. Je ne suis pas fidèle un jour, une heure, quelques minutes, mais c'est quelque chose qui est véritablement, dans toute ma vie durant. C'est aussi la fermeté, c'est-à-dire le tempérament de solide. Et puis la persévérance, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il faut ajouter ceci, c'est que la fidélité est une vertu cardinale, c'est-à-dire qu'elle vient en premier lieu. Elle est dans le peloton de tête, on pourrait dire, avec les autres fruits de l'esprit. Et elle s'exprime autant au naturel qu'au spirituel. Et je vais vous donner des exemples. Une société, le monde, ne peut fonctionner que si elle en est la base. Oui. Alors, on dit qu'il y a tellement de problèmes dans le monde, mais ce n'est pas étonnant. Parce que si elle est écornée, cette fidélité, si elle est passagère, si elle est mensongère, si elle est hypocrite, et bien d'autres choses, alors à ce moment-là, il y a un délitement de la société. On le voit, hein. Ça a toujours été. Mais je pense qu'on bat les records en ce moment, hein, dans le monde d'aujourd'hui. Alors, la fidélité, elle s'exprime à travers les actions et le commun de la vie, dans le commerce, par exemple. À travers les traités et les contrats que les hommes passent, et les nations aussi, entre nations. Et puis, dans les relations, naturellement, conjugales et familiales. Tant de pleurs, tant de désastres, tant de dégâts, chez les uns, les autres, l'un ou l'autre, et puis les enfants, et dans toutes les familles, on s'aperçoit qu'il y a ce problème. Dans le domaine social, la fidélité, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, qui véritablement est établie entre des parties contractantes. Ce n'est pas l'un qui impose à l'autre, il n'y a pas un dominé, un dominant, c'est qu'on s'est mis d'accord. Voilà, je traite, c'est au naturel ça, hein. Parties contractantes, où ces parties se sont accordées ensemble. Il y a le oui et le non. Si je dis oui, rentre naturellement, et bien là, en exercice, cette pensée, cette responsabilité, et bien, d'aller jusqu'au bout. Les promesses qui ont été faites dans le mariage, par exemple, c'est deux oui pour un nom de famille. D'accord ? Vous suivez ? Oui. C'est deux oui. Et comme dirait Jésus, ce qu'on y ajoute vient du malin. Hein. Je passe. Ce sont les engagements sur l'honneur. Où là, eh bien, on s'engage et on engage notre honneur. Et vous verrez, il y a des dégâts après. Hein, quand véritablement les choses ne sont pas faites comme il faut. Parce que nous savons que cet engagement sur l'honneur, eh bien, c'est soit le succès, parce qu'il y a eu accord, parce qu'il y a eu collaboration, on pourrait dire comme cela, échange. Alors, leur succès ou leur échec dépendent de la parole qui a été promise, la parole qui a été donnée réciproquement. Je suis fidèle parce que j'ai dit oui, et ce oui, eh bien, il est scellé quelque part. Sinon, il n'y a que rupture de contrat, et il n'y a que désordre qui s'ensuit. C'est inévitable, c'est inéluctable. C'est pour ça que j'ai abordé, parce que j'ai eu à cœur d'aborder ce sujet, parce que si le monde sait ce que ça veut dire fidélité, et puis son contraire, infidélité, une chose qui est certaine, c'est que pour nous, ça représente beaucoup plus important qu'on ne pense. Et pour Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Ça se termine, et bien là, soit par des cassures, soit par des blessures. Et quand il s'agit des hommes, la famille ou le conjugal, ce sont des blessures à l'amour. Il ne faut pas l'oublier. Dans le domaine spirituel, maintenant, je vous ai parlé des choses indifférentes de la vie, le naturel. Dans le domaine spirituel, la fidélité des hommes avec Dieu et vice-versa. Depuis le premier contrat dans le livre de la Genèse jusqu'à la promesse de Jésus « Je reviens bientôt », eh bien, c'est véritablement une expression de fidélité de Dieu vis-à-vis de l'homme, notre salut, et nous, dans notre conversion, dans notre acceptation de Jésus, c'est de la fidélité tout ça. Et tout va très bien, quand tout se passe bien. Il est dit cette parole que nous connaissons. Si nous sommes infidèles, alors voyez l'abîme qu'il y a, hein, Dieu demeure fidèle. Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. mais il ne peut pardonner que dans la mesure où nous prenons conscience de nos marches arrière ou de marcher sur les côtés, mais de plus suivre la voie. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce que Dieu ne se renie jamais, ni de son appel, ni de ses dons. Il faut que ça rentre. Ça, c'est important. Moi, j'étais un petit peu bousculé par le message. Je vous le prépare, on le partage ensemble. Mais c'est important. Dans les grandes alliances que nous propose la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, je voudrais vous dire que Dieu a traité avec un peuple qui s'appelle Israël. Dieu a toujours été fidèle avec Israël, même s'il devait recourir avec certaines disciplines, mais il a toujours été fidèle. Et même s'il y a eu des grands écarts, eh bien, il était toujours là. C'est l'histoire du fils prodigue, si vous voulez. Le père était là. Il l'attendait encore, et toujours. Alors, il y a d'un côté Dieu qui ne renie jamais sa parole, et il y avait Israël en face. Et là, on peut dire Israël rebelle, Israël infidèle, Israël qui trahit ces engagements que nous voyons là dans les premiers livres de la Bible, où ce soit Moïse, que ce soit les uns et les autres, Gédéon, enfin bon, peu importe, tous ces grands hommes et patriarches, ils faisaient des promesses devant Dieu. Oui, oui, il n'y a pas de problème, Seigneur. Là, tu peux compter sur nous, il n'y a aucun problème. Et puis on s'aperçoit que dans les faits, il y avait une érosion et tout s'écroule. Notre part, en ce qui nous concerne dans le Nouveau Testament, c'est important de souligner, en ce qui concerne la révélation évangélique, notre part est garantie par la fidélité de Christ aujourd'hui. Dieu a envoyé le Messie pour les Juifs, et il a envoyé pour nous le Sauveur universel, le Sauveur du monde. Et nous nous apercevons que ce qui nous permet d'être fidèles, ce qui nous permet d'aspirer à la fidélité, à tenir nos engagements vis-à-vis de Dieu, eh bien, c'est parce que Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Ouais. Il a accompli pour nous ce que nous ne pouvions pas accomplir, parce que nous sommes toujours, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient, et c'est viscéral chez l'homme de pécher. Alors, Dieu n'a pas attendu que nous soyons des saints, mais il a dit, moi, je vais chercher des hommes pécheurs pour en faire des saints. Et la fidélité, eh bien, rentre en ligne de compte. Et c'est pour ça qu'il est dit, je crois, sous la plume de l'apôtre Paul, oui. Il dit, Jésus-Christ est le oui et l'amen. Qu'il en soit ainsi. L'absolu. Christ est le oui et l'amen. C'est le nom que Paul donne à Jésus. Jésus est appelé le témoin fidèle et véritable. On le retrouvera tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse. Qui est la garantie par notre foi. C'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est croire. Il ne nous est pas de monter au ciel, il ne nous est pas de décrocher la lune et puis d'aller, je ne sais, faire des choses complètement, complètement impensables. Mais nous savons qu'il y a une garantie. On peut dire oui, mais on est faible. Alors, tout cela, naturellement, c'est la garantie par la foi lorsque nous marchons loyalement. Que nous marchons loyalement selon l'exemple de Christ, notre modèle. Il n'y a pas seulement que des lignes sur du papier blanc. Il y a un homme qui est venu sur la terre unique et il nous a donné, dans son exemple, dans le modèle qu'il nous donne, ce que c'est d'être fidèle. Lui, il est parfait. Nous sommes loin d'être parfaits. Mais c'est parce que nous lui faisons confiance, c'est que nous avons mis toute notre foi, que ce que nous ne pouvons pas atteindre nous-mêmes ou réaliser nous-mêmes, il l'a fait pour nous. Et j'ai foi en lui. Ça va ? Moi, quand je prends des vacances, je suis toujours rempli. Quand je reviens... Alors, il ne faut pas dire des vacances, parce que quand on est en retraite, vous vous rendez compte, quelle chance on a. La retraite plus les vacances. Moi, je me demande pourquoi les gens se plaignent. Enfin bon, c'est une petite parenthèse, vous l'oubliez tout de suite. Il y a quelque chose qui accompagne la foi. C'est la grâce. C'est, nous pourrions dire, le cœur. C'est le joyau dans son écrin. La foi, la grâce. Et la grâce, on peut dire, comme je crois l'apôtre le dit, comme ayant reçu, nous dit Paul, du Seigneur, la grâce d'être fidèle. Je dis bien d'être fidèle. Ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous donne la force, qui nous donne de garder notre parole, de tenir, d'être loyal, d'être honnête. C'est lui, tout est en lui. Alors cette grâce est suffisante parce qu'elle pallie toutes nos inconstances et nos faiblesses humaines. Je dirais que vous assemblez tout ça, la foi, la grâce, la fidélité naturellement qui en découle, eh bien c'est comme l'eau et le ciment qui est mélangé et qui deviennent solides comme le roc, comme le rocher. Eh oui, il faut l'alliance des uns et des autres, hein. C'est tout un ensemble de choses. Et c'est ce qui s'est passé pour Simon-Pierre. L'impulsif avant, le versatile, oui, non, mais Seigneur, tu sais, je te jure que je te suivrai jusqu'au bout. Hein, et lui, il va sortir son petit couteau de... Enfin, c'est pas un couteau de poche, c'est une épée. Hein, et il va couper les oreilles de Malchus. Alors, celui qui est comme ça, ça nous arrive, hein, peut-être, eh bien, va devenir un roc, s'efface. Oui, s'efface. Il s'efface pas, mais sa vieille personnalité s'efface, mais le nom qu'il porte. Hein. J'aimerais signaler, avant d'aller plus loin, quelques fidélités remarquables. Commençons par Moïse, hein, ça va être bref. Hein. Commençons par Moïse, et dans le livre des Hébreux, il est dit ceci, et prenons le temps de chercher et de savoir où on en est rendu, tout simplement. Alors, dans Hébreux. Dans Hébreux, il nous est parlé de Moïse, au chapitre 3 et au verset 2. Il est dit cette parole, tout simplement. C'est pourquoi, frères, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi, c'est-à-dire Jésus, que nous professons, et il est dit de Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Moïse, il nous donne un exemple. Hein. Parce que ça ne s'est pas passé en un jour, en un mois, mais déjà tout petit, jeté dans l'eau du Nil, jusqu'à la fin, sur le mont, je ne sais plus, où, après la conquête, 120 ans hein, de fidélité. Il a été fidèle dans toute sa maison. Il y en a un autre dont on connaît moins le nom, c'est Épaphras. Vous connaissez, vous l'avez entendu hein, naturellement. Épaphras, eh bien, nous avons cette référence dans Colossiens 1, 7, et il est dit ceci. Voilà. Qui reçoit les instructions, et il dit, Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous, en tant que pasteur, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il est animé par le Saint-Esprit. Donc, ça rejoint eh bien, le don spirituel. Je citerai également Philémon par rapport à Onésime. C'est une belle histoire, ça aussi. Et Tichite aussi. Mais j'arrête là. Alors, fidélité au service, dans le service, dans l'Église. On va rentrer un petit peu plus loin. Et il est donné, en effet, quelques éléments de réflexion dans 1 Corinthiens. Je cite et puis après on va aller plus loin. Hein? 1 Corinthiens 4, chapitre, verset 2. Ainsi qu'on nous regarde comme pasteurs, comme serviteurs de Christ, et nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu, ce qu'on demande d'un dispensateur, d'un pasteur, d'un frère, à quelque niveau que ce soit, dans sa fonction, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu ne nous demande pas de faire des prouesses, de faire des choses extraordinaires, à quelque niveau, quelques titres que nous portions en tant que chrétiens et serviteurs. Non, il nous demande que nous soyons fidèles. C'est ça ce qui est important pour Dieu. Ce n'est pas de réunir des centaines, des milliers de personnes, de faire des églises, des méca-church. Non, ce n'est pas ça, hein, pas du tout. Mais dans ce que nous avons, Paul dit, je fais une chose. Mais si je la fais bien et je suis fidèle à la chose que je fais. Il y a beaucoup d'activistes, d'activisme chez nous. Il y a beaucoup de... Voilà, on court de droite et de gauche, etc. Mais on n'épate pas Dieu. Hein. On peut en mettre plein la vue aux hommes. Mais Dieu, lui, regarde au cœur et à la fidélité de notre cœur. Ça, c'est fidélité au service. Loyauté à la vérité. Celui qui rend témoignage. Celui qui apporte la parole, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, enseignant, naturellement, de la doctrine, qu'il soit évangéliste, qu'il soit prophète et apôtre. Ce qui est important, c'est la loyauté à la fidélité. Ce n'est pas la peine de raconter des salades. Ce n'est pas la peine de vouloir en mettre plus qu'il n'en faut. Ce n'est pas la peine de la sidérer les gens en disant « mais quelle théologie, quel grand savoir !» Non, c'est de dire la parole qui nous est donnée en fonction des formes et en fonction de l'expression du ministère que Dieu nous a donné. Alors arrêtons avec quelquefois des souffles qui ne sont que des souffles de vent qui se perdent finalement et qui laissent rien. Il ne laisse rien de constructif en tous les cas. Fidélité à la vérité et à la justice. D'ailleurs, ça va bien ensemble. Fidélité et justice. Ce n'est pas la peine de faire des croche-pieds ou faire pour dire on va sauver un peu la face ou sauver la chose. Pas du tout. Le Seigneur nous dira ce qu'il faut faire et c'est lui qui le fera à notre place. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Ce n'est pas la peine de... Non, il nous demande finalement d'être fidèle à la justice. Et notre justice, ce n'est pas tant l'Ancien Testament qui épuise des hommes de bonne volonté, mais c'est la justice en Jésus-Christ. Lui, il est notre justice, parfaite, complète. C'est-à-dire d'annoncer tout le conseil de Dieu, comme Paul l'écrit, tout le conseil de Dieu, c'est important, c'est essentiel. Il y a aussi la loyauté à nos paroles qui ont été données. Je te promets, je te déclare que ceci et cela, mais il faut aller jusqu'au bout et vous allez voir les conséquences. Qui deviennent des serments. Je reviens sur le cas du mariage. Le mariage devant monsieur le maire, je dis bien devant monsieur le maire, parce que c'est lui qui a toute autorité. Ce n'est pas le pasteur ni le curé. Le pasteur et le curé, pour nous pasteurs, c'est de pouvoir prier pour le bonheur de la future famille, du futur couple. Mais le social, ce qui restera dans les livres, c'est ce que recueille l'officier d'état civil. Moi, je n'ai jamais dit que je marie les gens, pas du tout. Et on en a fait quelques-uns. Non, moi, pour moi, c'est la mairie. Et c'est un engagement public, un engagement qui a sa raison d'être. Donc, loyauté de nos paroles, le serment, ou autrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est la disqualification de votre parole, de ce que vous êtes. On dira, ah, il a construit une tour, et il n'a pas pu la finir, et tout le monde va éclater de rire en disant, ben regardez, il nous en a parlé de sa maison, il nous en a parlé de sa tour, de son château, etc., etc. Mais il a mis trois pierres et il a tout arrêté. La fidélité à ce que nous avons décidé ou à notre parole que nous avons déclarée. L'intégrité dans les affaires. Eh oui, on est dans un monde économique, un monde financier, un monde d'affaires, un monde de transactions. Donc, les transactions, les dettes et les prêts d'argent. Quelquefois, il n'a jamais été aussi triste de voir des chrétiens qui font des dettes. Je ne parle pas du crédit, c'est pas pareil. Qui font des dettes et qui oublient de rembourser les dettes. Et quelquefois, entre chrétiens. Moi, je me dis, là, il y a un vrai problème. Ce que je dois le payer. Autrement, je ne m'engage pas. Ce n'est pas la peine. Vraiment, ce n'est pas la peine. Alors, ce sont des petits détails, tout ça. Mais ça, ça a raison d'être. J'aimerais reprendre dans Luc le texte que nous avons lu au tout départ. Donc Luc 16, reprenez si vous voulez, m'accompagner. Et on va relire ceci. Et là je vais rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Au verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Réprocité. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, parce que ça ne vous appartient pas, mais vous êtes tout simplement des administrateurs, qui vous donnera ce qui est à vous? Et pourtant, il y a des trésors que Dieu nous donne à nous en propre. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Oh là, là c'est quand même quelque chose. Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu de la vérité, le Dieu de l'authenticité, le Dieu de l'intégrité, le Dieu tout-puissant, saint. Et puis Mammon, ah tiens, on n'entend pas toujours parler de lui, mais il agit, hein, je peux vous dire. C'est le contraire de Dieu, hein, Mammon, hein, sous toute forme que l'on peut imaginer. J'aimerais rappeler quelques, parce que c'est pratique hein, ce que je suis en train de dire ce matin, rappel de quelques principes utiles à savoir. C'est pas compliqué. Hein. Premièrement, Jésus nous dit, fidèle dans les petites choses de la vie, qui rendent notre exemple et témoignage fiable et crédible dans les petites choses de la vie. Et aux yeux des autres, ça nous rend crédibles. Voilà un homme bien, voilà une femme bien. Il parle, il s'engage, mais il tient parole. Parce que le contraire, c'est terrible. Alors, n'allons pas nous faire l'illusion que nous sommes des chrétiens au-dessus du panier et que quelque part, eh bien, nous avons des petites entorses parce que ça nous arrange nos intérêts, notre ego, enfin, toutes sortes de choses semblables que vous connaissez naturellement parce que bon, hein, on se ressemble les uns et les autres. Hein, et je ne suis pas en train de nourrir le tableau, mais c'est comme ça. Hein. Quelques pas de côté, et tout ça, ça peut nous arranger. Hein. Les petites choses. Il y a beaucoup de petites choses dans la vie. Hein. Mais c'est un test. Parce que si je suis capable de faire moindre, alors à ce moment-là, je pourrais faire plus. Mais si je n'ai pas, enfin, ça vient maintenant, mais si je n'ai pas la capacité de faire des petites choses, peut-être journalières, quotidiennes, qui sont rasantes, comment, finalement, je vais pouvoir me comporter devant les grandes? Et quelquefois, il y a des chrétiens qui ont perdu leur auprès de leur famille inconvertie, auprès des frères et des sœurs qui sont dans une assemblée. Alors moi, je dis ça, c'est vrai pour le commun que nous sommes, mais je le dis d'autant plus pour un pasteur. Eh oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Le deuxième point, le deuxième principe que je mets devant vous, c'est, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est savoir discerner les petites choses, même les plus insignifiantes, qui quelquefois nous font retrousser le nez en disant « Oh ben moi, je ne vais pas m'abaisser à faire ceci ». Et pourtant, ça commence comme ça dans l'école de Dieu. D'ailleurs, une des paroles pour choisir un futur pasteur, hein, ou un stagiaire pour nous, c'est le mot que nous employons, avant de le mettre en responsabilité, eh bien, il est dit, il faut l'éprouver d'abord pour savoir. Parce que s'il est capable de faire les petites choses, alors à ce moment-là, ça sera peut-être différent, ça sera certainement différent. Et si nous comparons les petites choses aux grandes ambitions vaniteuses, et quelquefois, il ne manque pas d'orgueil parmi les ministères. Moi, je suis à la retraite, hein, maintenant, c'est fini. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on en a vu passer en 40, 51 ans. Et je peux vous dire que quelquefois, c'est à pleurer. Parce que quand on est converti, on est converti. Et c'est l'identité de Christ qui est en nous. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Donc, comparons les petites choses et les grandes ambitions. Parce que la modestie est de mise. Surtout plus les responsabilités sont grandes, plus il faut faire attention. Ça, c'est clair. Plus vous êtes en vue, publiquement parlant, devant les autres, plus nous avons besoin de prier pour que Dieu nous garde avec un cœur humble. Autrement, danger. Le troisième point, le troisième principe, c'est se croire au-dessus. Je porte un titre, je suis pasteur. Je porte un titre, je suis docteur enseignant. Je porte un titre et je suis un évangéliste. Je suis un apôtre. Je suis un prophète. Alors là, c'est le nec plus ultra. Ouais. Se croire au-dessus. Moi, je ne vais pas m'abaisser à faire des choses. Moi, il n'y a que la parole de Dieu qui m'intéresse. Moi, c'est sur l'estrade. Hein. Pas question d'aller balayer, pas question de faire des choses. Eh ben oui. Mais si l'on veut être grand, il faut laisser Dieu nous faire petits. Se croire au-dessus. Parce que s'abaisser, surtout devant les autres, ça semble une humiliation. Vous vous rendez compte, moi je suis pasteur, je ne veux pas faire le commun de ce qui doit être fait. Et bien pourtant, Dieu va nous mettre à son école. C'était l'école des anciens. Hein. Moi j'ai connu des pasteurs qui ont été véritablement des ministères extraordinaires. Hein. Ouais. Et je peux vous dire que comme pour commencer, eh bien ils allaient au charbon. Et ça durait des années parce qu'ils n'avaient pas de salaire. Parce qu'ils avaient souvent des logis qui étaient insalubres. Dieu les a pris petits et les a fait monter très haut, en gardant l'humilité. C'est l'école. S'abaisser, c'est important, mais garder en action, garder vivante notre fidélité. Quelle que soit la place, quel que soit le travail que j'ai à fournir aujourd'hui, demain j'en aurai un autre probablement, mais de garder notre fidélité sans s'imaginer être capable d'accomplir que des tâches valorisantes qui nous élèvent aux yeux d'autrui. C'était le problème des pharisiens, ça. Hein ? Les pharisiens, ils se mouillaient pas, ils se salissaient pas les mains. Pas question. Et puis, toute la clique derrière, excusez-moi, parce que c'était vraiment une clique. Hein. Ouais. Parce que quand vous voulez pas faire certaines choses et que vous les laissez faire aux autres, en disant, moi, je suis au-dessus. Hein. Remarquez, ça vous donne des ailes quand vous êtes à la hauteur où je suis, là. Ah ouais, moi, je suis content. Ah, vous vous rendez compte? Ouais. Jésus nous dit ceci, et je le relis à dessein. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous êtes fidèle en ceci ou en cela, eh bien à ce moment-là, vous allez voir ce qui va se passer. La conséquence, c'est que celui qui est infidèle dans les petites choses, voire même malhonnête. Alors vous allez me dire, c'est pas possible qu'un chrétien soit malhonnête. Ah bah écoutez, quand il s'agit des intérêts, de nos intérêts, quand il s'agit de notre prestige, ou de notre titre, ou de notre fonction, quelquefois ça frise, il y a des vagues, hein. C'est pas toujours très clair, hein, y a du brouillard sur la ligne. D'autant plus malhonnête et négligent. Parce que moi je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, je laisse aux autres, etc. etc. Négligent. Eh bien il le sera, s'il est là, il le sera aussi dans les grandes responsabilités. Il le sera dans des choses qui sont plus grandes. Alors cet état d'esprit de désinvolture gâchera la confiance et qui pourra nous confier de plus grandes responsabilités, celles qui nous sont destinées. C'est-à-dire que ça va nous passer sous le nez. Ouais. Parce que Dieu a des projets pour chacun. Mais il faut commencer petit. Il faut être fidèle dans les petites choses, alors on vous donnera de grandes choses, vous aurez des responsabilités, parce que Dieu a quelque chose aussi pour nous. Mais si c'est par imitation de quelqu'un qui est dans la même situation que moi, parce qu'il a un titre, il a une fonction, et je veux être comme lui. Mais on n'a pas à être comme le pasteur d'à côté. On a à être comme Jésus. Parce qu'il est en nous. C'est lui qui va pouvoir distiller dans notre personnalité ce qu'il est dans sa sainteté, en quelque sorte. Il y a des exemples courants dans la vie sociale, c'est-à-dire dans son travail. Rendons un bon témoignage de notre fidélité au monde, d'abord à nos patrons, à nos collègues de travail, à ceux qui sont en responsabilité peut-être pour nous conduire, etc. Être fidèle. Ça, c'est important aussi. Dans la ponctualité aussi, c'est une question de fidélité. Si on a un rendez-vous, autant que ça dépende, mais bon, on peut comprendre, il faut y mettre un aménagement en disant ça. Mais si vous dites, eh bien, je serai là à 10 heures, et que vous arrivez à 3 heures l'après-midi, il y a quelqu'un qui vous attend sur le trottoir, oui, parce que vous êtes engagé, tout simplement. Alors, il y a des cas de force majeure, on comprend, mais quand même, quand on donne un rendez-vous, Eh bien, on y va, ou alors on s'excuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est très léger. Hein. Et c'est dans la vie autour de nous, mais c'est aussi parmi nous. Quelquefois, nous manquons de politesse et de respect. C'est commencer quelque chose et ne jamais le finir. C'est pour les autres. Moi, j'en ai marre. On l'a vu quelquefois. Hein. Ouais. Ne jamais finir une tâche. C'est resquiller. Alors là, c'est pas beau. Donne-moi ni richesse, ni pauvreté, mais de pouvoir être fidèle dans ce que toi tu me donnes, sans convoiter autre chose. Chaparder aussi. Oh, il y en a tellement. On peut peut-être en mettre quelque part, un petit peu dans notre poche. Ben, c'est pas de la fidélité, ça. Hein. Tricher. La tricherie. Un manque de scrupulosité. Les choses sont faites à peu près. Oh, ça ira bien, et puis c'est tout. Hein. Scrupulosité insuffisante. Les indélicatesses. Tiens, ben justement, à propos des délicatesses, il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, cette parole. C'est tout, c'est ce qu'il dit. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, fais-le avec fidélité, mais fais-le. C'est dans l'Ecclésiaste, hein, c'est une citation de passage que je donne comme ça. Et cela vaut avant tout pour l'Église. Parce que les gens du monde, moi, ils ne sont pas là d'abord, mais pour l'Église. Fidèle déjà dans les richesses injustes. Alors on va expliquer ce que c'est que des richesses injustes. Et ce que sont que des richesses justes. Parce que là, on peut peut-être se faire encore des idées fausses. Fidèles dans les richesses injustes, c'est-à-dire celles de la terre qui passeront, celles de la terre que Dieu nous prête temporairement. Parce que le jour où on va partir de l'autre côté, ben, c'était simplement pour la terre. C'est pas pour l'autre côté, parce que l'autre côté, ça sera une autre dimension, qui plus est, une dimension de nature spirituelle, pas charnelle. Donc, ça, c'est les richesses injustes. Elles ne sont pas forcément injustes comme on l'entend judiciairement, mais elles sont pour la terre, elles sont temporelles, tout simplement. Parce qu'elles sont mal employées et mal possédées et que nous faisons nôtre comme si nous en étions les propriétaires ou alors on les néglige. Mais nous sommes propriétaires même pas de notre vie. Seigneur, moi je sais que je ne vais pas mourir. Ben, vous allez voir si vous n'allez pas mourir, comme tout le monde. Hein. Hein, oui. Ou alors de dire, ben, moi ça ne m'intéresse pas. Ben, vous savez, je suis pasteur dans une petite église, mais ça ne me dit rien. Moi j'aurais tellement rêvé d'avoir au moins, je ne sais pas moi, une église de 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres. Alors je néglige, je dis, ben, ce n'est pas intéressant. Ben, je pense qu'il y aura des comptes à rendre. Hein. Parce que Dieu nous fait quelquefois l'expérience d'aller planter nos choux, dans des petites œuvres qui sont difficiles. Et c'est là où le Seigneur va voir si nous sommes fidèles ou pas. Pas décrocher. Nous, on a connu des pasteurs qui ont commencé dans des petites œuvres où il y avait 5-6 personnes. Et ça, pendant des années, des années, des années. Après, les choses ont changé, bien sûr. Mais c'était le prix, finalement, de leur fidélité et de leur loyauté au Seigneur. Seigneur, je ne vois pas les âmes venir. C'est terrible. Et je peux vous dire que vous passez des nuits à pleurer, hein, quelquefois. Plus que quand vous avez construit quelque chose, que ça commence à venir et vous avez quelqu'un qui arrive, mal intentionné, et qui met tout en l'air. Et on recommence. Vous connaissez le poème de Kipling ? Voilà. Qui passe par toutes les tempêtes de la vie. Et « Mon fils, si tu es un homme », c'est ça le titre, hein ? Relisez-le, vous le prenez sur Internet et vous allez voir. Il est formidable. On pourrait dire presque que c'est un cantique. Hein. Extraordinaire. Parce que si véritablement tu continues à être fidèle, eh bien Dieu t'abandonnera jamais. Ouais, les richesses injustes, en pensant que nous sommes propriétaires, alors que nous sommes tout simplement des usagers et des administrateurs. C'est bien ce qui nous concerne. Dans le ministère. Alors notre loyauté nous rendra capables de prendre soin et de gérer avec plus de fidélité encore les vraies richesses. Et les vraies richesses, c'est les trésors que Dieu a mis, les trésors spirituels, les trésors que nous aurons de l'autre côté On ne les connaît pas encore. Enfin, on n'a que les arts hein, pour l'instant. Mais c'est ça. Hein. Ce sont les richesses du ciel réputées véritables. Je vais bientôt finir. Il est dit « fidèle jusqu'à la mort ». Dans le livre de l'Apocalypse, hein, ça ne vient pas avant. « Fidèle jusqu'à la mort ». C'est une des plus belles conclusions que nous pouvons trouver dans le dernier livre de la Bible. « Fidèle jusqu'à la mort » parce que cette lettre, une des parties de cette lettre qu'on appelle l'Apocalypse, était destinée à l'église de Smyrne. Et c'est véritablement la deuxième, hein, sur les sept, c'est véritablement la communauté chrétienne des premiers temps qui était la plus persécutée, où il y avait des martyrs. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, dit « fidèle jusqu'à la mort ». Il faut montrer du zèle hein, pour aller jusqu'au bout et tenir notre engagement, notre parole. Mes frères et sœurs, je rappelle les fondamentaux du baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est que, et vous êtes témoins, nous en sommes témoins, quand il est dit ceci, c'est une petite confession, hein, c'était peut-être une petite formule, mais ça veut dire quand même que la personne qui se fait baptiser a réfléchi à la question et que véritablement, de toute sa force et de tout son amour, il s'engage à suivre Jésus. Vous engagez-vous à aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit? Vous engagez-vous à le servir tous les jours de votre vie? Et on l'a entendu des dizaines et des centaines de fois, cette... Eh bien, justement, ça demande du zèle. Et de dire, eh bien, maintenant, le Seigneur est venu me chercher. Il a donné sa vie pour moi, moi, je lui donnais la mienne. Je finis. Les récompenses de la fidélité. Parce que ces récompenses, elles sont suffisantes pour fortifier des croyants qui sont chancelants et faibles. Eh oui, Seigneur, je ne sais pas. Je me sens si faible, si petit. Et ça, quand on sait qu'il y a une récompense, non pas dans un esprit, je ne sais pas moi, d'intérêt, mais parce que tout simplement, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu, alors à ce moment-là, ça nous fortifie. Et vous savez que ces croyants-là, chancelants et faibles, sont déjà appelés les élus et les fidèles de l'Église. Eh oui, vous êtes élus parce que vous êtes présentés aux élections. L'élection divine. Parce qu'on ne peut jamais être élu si un candidat politiquement ne se présente pas. Ben, il ne peut pas être élu, il ne s'est pas présenté. Mais quand Dieu s'est présenté à nous, eh bien, nous avons répondu oui, et nous sommes élus maintenant. Il y a peu d'élus, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, je le mets dans le bon sens. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant, je cite pour votre réflexion, c'est dans Apocalypse chapitre 17, et verset 14. Il est dit ceci. Ils combattront l'agneau. Ça, c'est naturellement l'état d'esprit de l'Apocalypse. Ils combattront, les ennemis combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Écoutez bien. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Appelez les élus et les fidèles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qui, avec Jésus, eh bien, vaincront le monde, et vaincront les ennemis du bien, de la justice, de la vérité, etc., etc. Fidèles soldats, nous sommes des soldats, fidèles soldats de Christ, vainqueurs, qui portent sur sa bannière, vous savez le drapeau, hein, c'est écrit aussi dans la Bible, je n'invente rien, hein, qui portent sur leur drapeau ces mots resplendissants, roi des rois et seigneur des seigneurs, le fidèle et le véritable, le fidèle et le véritable. Et dans Apocalypse chapitre 2 et verset 10, il est tout simplement rappelé que, et je voudrais quand même le citer pour ne peur d'oublier, il est simplement dit, c'est une injonction, un impératif, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors c'est là où nous pouvons éclater de joie et bénir le Seigneur, je te donnerai la couronne de la vie, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était particulièrement la fidélité dans la persécution, comme dans l'église de Smyrne. Ils ont tenu bon, là. La couronne de vie, c'est toujours naturellement le contraire de la mort, puisqu'on parlait de la mort. Ça sera la vie éternelle, mes frères et sœurs. Ça ne sera pas une vie de quelques 80 ans ou 90 ans. Hein. En récompense de ta fidélité indéfectible. Et nous terminerons maintenant au chapitre Luc, chapitre 19. et au verset 17. Écoutez bien. C'est l'histoire d'un roi qui part dans un pays étranger, pour y faire quoi, je ne sais pas, c'est pas dit, mais peu importe. Et il confie à des serviteurs, eh bien, des trésors, qu'on appelle des mines. Voilà, vous connaissez l'histoire. Hein. Lorsque le roi fut de retour, c'est au verset 15. Hein. Donc, 19, verset... On recommence au verset 15. « Lorsque le roi fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, les mines, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. » C'est une question, non pas de quantité, mais c'est une question de qualité. Le premier vint et dit au Seigneur, il dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bon, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Et puis, quant au dernier, « Je ne veux pas en parler, parce que c'est une catastrophe. » Une absence totale de fidélité. Vous avez remarqué avec moi, fidèle en peu de choses. Pourtant, c'était une fortune que le roi lui avait donnée. Hein. Hey, 10 mines, l'autre 5 mines. C'était des fortunes, en quelque sorte. Mais tu as été fidèle en peu de choses. Tu as su garder, tu as su conserver, tu as su faire fructifier. Tu as été véritablement, eh bien, intègre. Et il est dit, je te donnerai le gouvernement de 10 villes. Imaginez-vous ce que sera de l'autre côté, dans le royaume des cieux. 10 villes. Être maire de 10 villes, grosses comme Saint-Nazaire, ou grosses comme Paris, ou Amsterdam, si vous voulez. Peu importe. 10 villes. 10 que je t'ai confiées, et tu vas en avoir dans le ciel. Et là, ça ne sera pas temporel, et ça sera éternel. Où l'orgueil n'existera plus. Le deuxième, il est dit, je reçois le gouvernement. Tu reçois maintenant, ça y est, c'est fait, c'est pour toi. Les grandes responsabilités, elles sont pour toi. Le second, je t'ai donné 5 mines, tu en as rapporté 5, et lui dit, sois établi sur 5 villes. Le premier reçoit, et le deuxième établit. Voyez ? Mais écoutez, mes frères et sœurs, moi je pourrais simplement terminer comme ça. Soyons fidèles à l'appel qui nous a été donné. Et puis laissons tous ces bruits, laissons tous ces cliquetis de guerre, hein, tous ces bruits qui sont là pour nous détourner, etc. À commencer par déjà nos atavismes intérieurs, tels que l'orgueil, tels que vouloir être ce qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais. Mais on va avec ça, on va enquiquiner tout le monde. Tout simplement. Et on perdra finalement notre récompense. Et couronne de vie. Vous vous rendez compte ? Que le Seigneur nous bénisse. Je vous l'ai déjà dit, mais un jour, on était en train de préparer une mission sociale, c'était à Angers, pour des vêtements pour la Roumanie. Et moi, je me souviens toujours de ce frère qui habitait, je crois, Narbonne. Il était venu avec un gros camion. Et puis, à un moment donné, quand on a eu fini de collecter, etc., etc., il m'avait donné une parole. C'est une parole de bénédiction pour le ciel. Il m'a dit, avec un accent du midi, il m'a dit, que Dieu astique votre couronne, alors que Dieu nous bénisse. Ouais, faut être fidèle pour astiquer notre couronne. Voilà. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Parce que nous croyons, Père éternel, qu'il y a des grandes choses dans les principes de l'Évangile. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la fidélité, la foi, il y a la maîtrise de soi et, Seigneur, toutes sortes d'autres choses. Alors, Seigneur, fais-nous grâce. S'il te plaît, Seigneur. Et moi, je te demande que tu bénisses cette Église et que ce n'est pas tant ce que nous allons faire que nous allons multiplier, mais moi, je te demande que tu la bénisses en qualité. Parce que c'est ça notre trésor. C'est ça véritablement les mines que nous recevons. Alors, si nous sommes capables de faire, d'être fidèles dans les petites choses, eh bien nous savons que tu nous en donneras de plus grandes. Et pour, véritablement, la gloire de ton nom, la gloire de Jésus, et que cette église dans laquelle nous travaillons, et bien soit une bénédiction pour cette ville dans laquelle nous résidons. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères.